Bonsoir, comment allez-vous? Demain, ce sera la Saint-Valentin. Entre Halloween et Fête des Mères, vous vous dites « Allez, on a encore glissé une fête commerciale pour nous faire dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Boycottons, pas de cadeaux. » Sans vouloir faire preuve d'esprit de contradiction, je dirais l'inverse. Cadeau, cadeau. Même si nous n'avons pas d'amoureux, cadeau. Cadeau à nous-mêmes, aimons-nous, gâtons-nous, offrons-nous des fleurs, un vrai bouquet de fleuristes. Sinon, juste une seule, mais une belle. Une belle qui vivra, pas un bouquet qui agonise sous les néons de la grande distribution, servi par personne, puis roulé jusqu'à une caisse entre une bouteille de Javel, 42 yaourts en promo, et un poulet martyr qui aura attendu d'être mort pour voir le jour. Idem pour les chocolats. Offrons-nous du chocolat, au pain des tonnes, juste quelques-uns, d'une bonne maison, servi par quelqu'un de gentil. Pour le prix d'une tablette de chocolat industriel, vous aurez un seul chocolat merveilleux, praliné au ganache, noir ou au lait, au romarin ou citron vert, un truc incroyable d'inventivité, de parfum, de joie. Et puis, si on ne veut pas ou on ne peut pas dépenser, eh bien faisons comme les enfants. Un dessin, un bricolage, une histoire drôle, un compliment, un bon moment. Demain, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, pas la fête des couples. Si vous êtes seul, il y a forcément quelqu'un que vous aimez. Encore une fois, commencez par vous-même. Vous pouvez dès ce soir réfléchir à ce qui vous ferait plaisir.
Bonjour, je m'appelle Béatrice, j'ai 5 ans et demi et je voulais savoir si le chocolat était un fruit.
Bonjour Béatrice. Ah oui, quand on nous dit qu'il faut manger tant de fruits et légumes par jour, est-ce qu'on peut y mettre le chocolat? Ça, c'est bien, bien pensé Béatrice. Maintenant, il faudrait voir si le chocolat est un fruit avec vous, Catherine Laine.
Alors, désolée Noël, non, le chocolat n'est pas
oh,
un
zut
fruit. Mais quand même,
c'est une
le chocolat, oui, est issu d'un fruit. Donc, on le mettra quand même dans les 5 fruits
Merci.
Et légumes. Alors, le chocolat, c'est issu des graines du cacaoyer. Le cacaoyer étant une plante. Cette plante met en place des fruits qu'on appelle les cabosses.
Ah d'accord.
C'est des espèces de gros concombres, ça ressemble à un gros concombre strié et tout cabossé justement. Et ce qui fait ces bosses sur la cabosse, ce sont les graines à l'intérieur de la cabosse qu'on appelle les fèves. Et donc les fèves de cacaoyer sont utilisées pour produire le chocolat. Alors comment on fait ? On récupère les fèves, on cueille la cabosse à maturité, elle est dure. À l'intérieur se trouvent des fèves mûres, qui sont blanches ou violacées. On les met à fermenter sous des feuilles de bananier, par exemple, dans une atmosphère humide.
Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont un peu comme des cerises de chez nous, ces fèves, non? Comme taille ou...
Alors, oui, c'est ça. Dans la taille à peu près, dans la nature même, non, bien sûr, ouais. Puisque c'est une graine. Cette fermentation des fèves, elle sert à éliminer la pulpe de la cabosse et à diminuer également le goût, parce que le goût de la cabosse, c'est un goût très amer.
On les met à fermenter où ça? Je vous ai coupé la parole.
On les met à fermenter au soleil, sur le sol, sous des feuilles de bananier. Ensuite, à la fin de la fermentation, les fèves ont pris cette belle couleur du chocolat, une belle couleur brune, et on les met à sécher. Et ces fèves sèches, au bout d'une ou deux semaines, c'est ça qu'on expédie dans le monde, et le chocolat va être extrait de ces fèves séchées dans les chocolateries de nos pays occidentaux. Alors, comment on fait? On va d'abord les cuire, les torréfier, puis écraser ces fèves cuites pour en faire une pâte, plus ou moins liquide, c'est la pâte de cacao. Et ensuite, on utilisera cette pâte pour fabriquer le chocolat noir, le chocolat au lait, par exemple.
Donc, la fève n'est pas le fruit, c'est la cabosse.
Voilà.
Mais c'est végétal.
C'est végétal et on aura donc le droit d'en manger 5 fois par jour.
Catherine Laine est enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'Université Clermont-Auvergne de Clermont-Ferrand. Et elle est l'auteur de ce livre passionnant qui s'appelle « Dans la peau d'un arbre, secrets et mystères des géants qui vous entourent » et il est édité chez Belin. Vous écoutez Les Petits Bateaux, l'émission où des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi il y a des jurés et à quoi servent-ils?
Pourquoi il y a des jurés et à quoi servent-ils? Hervé Témime, vous êtes un avocat qui avait fait du pénal général, je ne sais pas si on dit comme ça.
Ah, on dit exactement comme ça.
Et puis maintenant vous êtes un peu plus spécialisé dans les crimes d'argent.
Dans le pénal des affaires, oui, mais j'en fais toujours du pénal général.
Je vous regarde pour savoir si les termes sont bons, c'est tellement particulier votre langage. Vous avez écrit chez Gallimard « Secret défense ». Alors, pouvez-vous répondre à cette question d'Alexandre? Parce que si j'ai raconté tout ça, c'est que finalement, vous êtes un avocat qui avait affaire à des jurés.
Je suis un avocat qui a moins affaire à des jurés qu'il n'a eu affaire à des jurés. Et quand j'ai commencé, pendant de très longues années, j'ai plaidé énormément à la cour d'assises. Et je connais évidemment très bien le fonctionnement de la cour d'assises. les affaires dans lesquelles j'évolue aujourd'hui sont les affaires qui m'amènent à moins la fréquenter, mais on a encore beaucoup à mon cabinet d'affaires d'assises, sont des affaires passionnantes pour les avocats, en tous les cas, qu'ils soient du côté de la partie civile, des victimes ou de la défense.
Et pour le grand public aussi, il faut reconnaître,
n'en parlons pas, c'est ça qui est le plus passionnant, mais incontestablement. Alors la question d'Alexandre est une très bonne question, parce que effectivement, il n'y a pas des jurés partout, il n'y a pas des jurés dans tous les tribunaux, il n'y en a qu'à la cour d'assises. Alors pourquoi ? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Toutes les décisions de justice en France sont rendues au nom du peuple français. Alors on pourrait me dire, ou tu pourrais me dire, Alexandre, oui, mais justement, il n'y a pas des jurés partout. Oui, mais deuxième raison, c'est quand il s'agit de juger les crimes, c'est-à-dire les actes les plus graves, où les peines les plus lourdes sont encourues, là, la justice, elle développe une forme de solennité, c'est-à-dire de décorum, de procédure extrêmement contraignante, qui est plus grande, et on considère encore, c'est en danger, que ces affaires-là doivent être des affaires où les jurés, c'est-à-dire le peuple français, participent au rendu de la justice. Et moi, j'y suis extraordinairement favorable. Et aujourd'hui, la cour d'assises est en danger parce qu'il y a des expérimentations qui risquent de devenir définitives et qui peuvent faire en sorte que peut-être demain, les jurés, ils auront quasiment disparu des affaires criminelles. Or, quand on assiste à une affaire d'assises, quand on y participe a fortiori, on s'aperçoit à quel point ça change tout le fait qu'il y ait des jurés. Même si l'influence des magistrats professionnels et du président de la cour d'assises peut être très grande sur les jurés. En tous les cas, ça donne une solennité, et puis c'est lié à des règles de procédure, comme par exemple l'oralité, c'est-à-dire que à la cour d'assises, tout ce qui se passe, c'est ce qui se passe devant la cour d'assises. Le dossier papier, le dossier écrit, il n'existe pas ou quasiment pas. Qui fait que, pour moi, même s'il y a parfois des erreurs judiciaires abominables, il n'y a pas de système dans lequel il n'y en ait pas, malheureusement. Pour moi, c'est quand même là où la justice qui est rendue ressemble le plus à une justice de qualité.
Mais la justice, vous avez prononcé le mot justice de qualité, Maître Temim, donc c'est pour que ce soit plus juste qu'il y ait des jurés ?
Je pense qu'effectivement, il y a une forme de grand sérieux dans la façon dont les choses sont prises. Et puis, si vous voulez, il faut qu'à un moment donné, les grands principes aient un sens. On peut pas dire que la justice est rendue au nom du peuple sans que le peuple n'y participe jamais. Moi, je pense que la justice criminelle sans les jurés, ça n'est plus la justice criminelle. Et on voit d'ailleurs, parce qu'il y a des cours d'assises, vous savez, où il n'y a pas de jurés, par exemple, en matière de terrorisme, en matière de stupéfiants. Il y a des cours d'assises, il n'y a pas de jurés. C'est pas du tout la même juridiction. C'est une sorte de super tribunal correctionnel. Ça n'a rien à voir. Il faut conserver des jurés.
Les jurés, ils sont 12, c'est ça ?
Les jurés, alors non, les jurés, ils sont, ça dépend.
Dans les films, ils sont 12.
Oui, dans les films, ils sont 12 parce qu'ils sont 9 plus 3. Dans les films, il y a 9 jurés, 3 magistrats. Et maintenant, il y a la cour d'assises en première instance et la cour d'assises en appel. En appel, ils sont effectivement 9. Mais en première instance, il y a 6 jurés. On peut en récuser 4. En appel, on peut en récuser 5.
Et finalement, leur voix compte vraiment ? Donc c'est eux qui disent coupable, pas coupable ?
Leur voix compte autant que celle des magistrats, et tout dépend de l'influence des magistrats sur les jurés. Non, ils ont un rôle capital.
Oh, qu'est-ce que j'aimerais pas être juré, moi j'en dormirais pas de la nuit. Ils sont, je crois, choisis au hasard sur les listes électorales, et je crois encore que nous n'avons pas le droit de refuser si nous sommes choisis. Maître Hervé Temim a écrit « Secret défense » édité chez Gallimard. Dans les petits bateaux, ce soir, Rose a demandé si les robots ont des os et des muscles. Thomas a demandé pourquoi il y a des gens qui passent le bac à 70 ans. Et Maëlys a demandé, veille de Saint-Valentin, pourquoi quand on est amoureux... Non, pas pourquoi. Elle a demandé si, quand on est amoureux, comment on fait pour que l'autre le soit aussi.
I'm begging.
C'était les Four Seasons. J'espère que vous avez aimé ce disque. Nous, on commence à être un petit peu saturés. Nous l'avons écouté tous les jours dans le bureau. Qu'est-ce que je dis tous les jours? Toutes les heures. Parce que Stéphane Combe l'a passé tous les jours, toutes les heures. Et ça le réjouissait beaucoup. À mon avis, ça doit lui rappeler un souvenir un peu froute-froute. Pourtant, t'étais pas né en 1967, Stéphane Combe.
Les petits bateaux sur France Inter.
Allez, à propos de un peu froute-froute, la petite Maëlys, allez, on l'écoute.
Je m'appelle Maëlys et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir comment on fait quand on est amoureux pour que l'autre nous aime aussi. Merci.
Merci pour ta question. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'université Paris-Descartes, Lubomir Lamy, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les vrais signes de l'amour naissant », édité chez Payot.
Je répondrai à cette question qu'elle est touchante, elle est bien vue, elle est intelligente, mais je requalifierai les choses au tout début. Je dirais que probablement, en matière amoureuse, on ne peut pas exiger de l'autre qu'il nous aime. C'est une sorte comme de code de déontologie, parce que très souvent les gens se disent « en amour, tout est permis ». Pour arriver à ses fins. Je pense qu'il faut relativiser cette façon de voir les choses. C'est la différence, par exemple, entre séduire et être aimé. Si on use, je dirais, de stratagème.
C'est de la manipulation.
Quelque part, ça confine à de la manipulation. Il y a quelque chose qui ressemble au désir de forcer l'autre à nous aimer. Si on veut que l'amour reste une chose honnête, je dirais, honnête, il faut admettre, c'est déjà beaucoup, admettre que l'autre est libre, que l'autre pourrait nous aimer, on le souhaite, on l'espère, mais que l'autre pourrait éventuellement ne pas nous aimer. C'est le début d'une relation quand même assez saine entre l'un et l'autre. Si je veux forcer l'autre à m'aimer, je peux y parvenir. C'est ce qu'on appelle de la séduction, des techniques de séduction. C'est ça qui remplit beaucoup d'ouvrages. Évidemment, ça plaît. Mais ce qu'il faut comprendre au-delà du thème de la séduction, c'est que on ne parviendra peut-être pas à être aimé. On n'aura peut-être jamais été aimé.
Ou en tout cas pas pour soi, mais pour ce qu'on semble être.
Voilà, pour ce que l'on semble être. Pour une apparence, pour un moment quand même qui pourrait n'être que passager. Moi, je pense que ce qui préoccupe fondamentalement Maëlys, ça n'est pas de séduire, c'est d'être aimé. Et là, on est obligé d'adopter un autre raisonnement. Quelles sont les qualités personnelles qui feraient que les autres peuvent nous aimer? Et là, bon, alors il y a 1000 réponses à ça que je n'aurai pas le temps de traiter ici, mais je répondrai seulement une chose. Si j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur, probablement que des gens s'en apercevront et viendront vers moi. Je n'aurai pas besoin d'adopter une attitude artificielle, des stratégies, des stratagèmes de séduction artificielle pour les séduire. Je n'aurai pas besoin de les forcer parce qu'ils sentiront qu'en moi, il y a un amour qui ne demande qu'à s'exprimer. Moi,
qui est naturel.
Qui est naturel. Alors, je prends une image ultra simple. Si on est en hiver, que beaucoup de gens ont froid, et que j'ai un radiateur qui chauffe bien, je suis sûr que beaucoup de gens s'en apercevront et qui viendront se chauffer, se réchauffer auprès de moi. Mais si à l'inverse, mon radiateur est froid, j'ai pas d'amour, je n'aime que moi. C'est le cas souvent. Dans les relations amoureuses, vous avez des gens qui aimeraient être aimés, mais eux-mêmes sont quand même pas très expansifs.
Ils ne s'aiment pas beaucoup non plus, à mon avis. Mais bon.
Oui, on peut le résumer comme ça aussi. Mais si le radiateur est froid, je peux utiliser des stratagèmes, des stratégies de séduction, mais qu'est-ce que ça donnera sur du moyen terme? Que les gens, tôt ou tard, s'apercevront que je ne les aimais pas. Et donc, ils s'éloigneront de moi, et à ce moment-là, je me dirai, mais c'est affreux, pourquoi est-ce que les histoires d'amour échouent?
Les histoires d'amour finissent mal en général. Lubomir Lamy a écrit « Les vrais signes de l'amour naissant » en 50 expériences, c'est édité chez Payot. Il est toujours disponible, même s'il n'est pas très récent. Mais je vous donne les plus anciens, rien que pour le plaisir des titres. « L'amour ne doit rien au hasard » chez Erol. « Et pourquoi les hommes ne comprennent rien aux femmes » et réciproquement chez Erol également. C'était Lubomir Lamy. Voici les histoires de Bach passées sur le tard, en pleine époque du Parcoursup. C'est intéressant.
Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 14 ans. Pourquoi il y a des gens qui passent le bac à 70 ans? Merci, au revoir.
Bonsoir Thomas. Françoise Noël Joty, vous êtes professeure du lycée d'adultes de la ville de Paris et vos élèves passent le bac adultes. Je ne sais pas quel âge ils ont, je ne sais pas s'ils ont jusqu'à 70 ans, comme dit Thomas.
Oui, ça peut arriver. Au lycée d'adultes de la ville de Paris, il y a une grande mixité, à la fois culturelle, sociale et générationnelle. Donc on a des jeunes et des moins jeunes, et c'est absolument formidable, ils rajeunissent parfois. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, ces gens-là? Parce que j'ai cherché, Thomas, un petit peu ce que disaient les personnes elles-mêmes, c'est ça qui est intéressant. Bien, par exemple, Serge disait en arrivant, il avait donc une cinquantaine d'années, pas tout à fait 70 ans, mais enfin, il disait « je ressens comme un vide en moi, accompagné d'un sentiment de dévalorisation ». Ou bien Justin, qui avait lui 64 ans, donc on se rapproche des 70, disait « je veux acquérir de la culture générale, le bac ce sera la cerise sur le gâteau ». Le bac c'est un marqueur, cela m'autorisera à en faire partie. C'est-à-dire qu'il a une telle valeur symbolique ce bac que quand on ne l'a pas eu, on a l'impression d'être en quelque sorte un peu exclu. Ça fait partie de ces rituels qui sont très importants dans notre existence, qui viennent marquer effectivement certaines étapes dans notre vie. Et les gens qui ne l'ont pas eu, ils ont l'impression qu'ils appartiennent pas tout à fait à cette nation française, d'autant qu'il s'agit d'un diplôme dit national et que tout le monde sait ce que c'est que le baccalauréat. Absolument tout le monde en France. Actuellement, il y a à peu près 700 000 jeunes qui passent le baccalauréat tous les ans. Et pourquoi pas d'autres plus âgés? Ils peuvent aussi donc venir le préparer au lycée d'adultes de la ville de Paris. Ils peuvent aussi le préparer, bien sûr, seul, grâce à l'aide du CNED. C'est évidemment plus difficile.
Dans votre lycée, Françoise Noël Joty, donc seconde première terminale, vous avez des scientifiques, des littéraires, L, S, il y a toutes les,
alors, les
options.
Finalement, les filières ont disparu ces dernières années, puisque le nouveau baccalauréat 21 prévoit des enseignements communs et des spécialités. Cela dit, jusque-là, nous avions effectivement les trois filières. Nous le faisions d'ailleurs depuis la seconde, parce que les adultes, en général, savent déjà assez bien ce qu'ils souhaitent. Donc on avait déjà une différenciation. La filière scientifique était la plus demandée.
Ah tiens.
Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont, un peu par défaut ou par dépit, enfin, ils n'ont pas fait la filière qu'ils souhaitaient dans leur parcours initial, et tardivement, ils se disent, après tout, on m'a toujours dit que j'étais nulle en maths, mais moi, les équations, j'aime bien ça, il y en a certains qui en font au petit-déj, c'est vous dire. Et donc, ceux-là, eh bien, ils ont envie de refaire un parcours, et c'est souvent assez brillant, ils reprennent donc en seconde pour avoir les fondamentaux, parce que pour bien construire l'édifice de connaissances, encore faut-il avoir les bases. Ils ont enfin donc ce baccalauréat et suivent la formation scientifique de leurs rêves.
Ce sont des études à plein temps.
Alors, c'est particulier. Au lycée d'adultes, les cours ont lieu le soir uniquement, mais c'est pas une parenthèse en fin de journée. C'est 18-22 heures du lundi au vendredi, plus le samedi matin de 9h à 13h. Donc, c'est au total 24 heures de cours. Et puis, il faut y ajouter du travail personnel. Donc, c'est un vrai défi. Au lycée d'adultes, la personne qui s'inscrit, eh bien, elle va avoir trois vies, sa vie privée, sa vie professionnelle et sa vie scolaire. On a, par exemple, des personnes qui viennent au lycée d'adultes avant d'aller travailler. Après, ils deviennent taxi de nuit, comme ça peut arriver, ou videur de discothèque, ou aide-soignante à l'hôpital. Et puis, il y a ceux qui travaillent toute la journée et qui viennent au lycée après.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois j'aurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, meilleur. Comme dans toutes les chansons de Varia, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi te taire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-coup déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger.
C'était Jour Meilleur, Aurel San. Aurel San qui a remporté un succès mérité aux Victoires de la Musique. Vous écoutez France Inter, Les Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Rose et j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir si les robots sont des os et des muscles. Merci, au revoir.
Bonsoir Rose. François Sillion, vous êtes maintenant directeur technique et numérique du Centre National d'Études Spatiales. Mais vous connaissez bien les robots, entre autres. Elle demande à la petite Rose s'ils ont des os et des muscles.
Oui, alors ça, Rose, bonsoir, c'est une très bonne question. Les robots, on se demande finalement s'ils sont vivants ou s'ils sont faits comme nous. Alors je crois qu'il faut d'abord se demander ce que c'est qu'un robot. Dans les films, au cinéma, on voit souvent des robots qui sont finalement qui ont des formes d'humains ou d'animaux. Mais finalement, un robot aujourd'hui, on peut aller dans un magasin acheter un robot aspirateur ou un robot tondeuse à gazon. Ou bien on peut envoyer des sondes. Moi, je travaille au Centre d'études spatiales. On peut envoyer des sondes sur d'autres planètes qui vont se comporter comme des robots, c'est-à-dire qui vont être automatiques. Ils vont savoir faire quelque chose automatiquement. Ont-ils des os et des muscles? Ils n'ont pas des os et des muscles dans le sens où nous, êtres vivants, nous en avons, qui sont formés de matière vivante. Par contre, c'est très intéressant de faire une analogie, c'est-à-dire de comparer un petit peu tout ce qui constitue à composer un robot. Et on peut faire effectivement une analogie assez complète avec la façon dont nous-mêmes nous sommes formés. C'est-à-dire, effectivement, les os ou le squelette, en général, ces robots, ils ont une tenue mécanique, ils ont une enveloppe, ils ont peut-être différentes parties qui bougent les unes par rapport aux autres. Les muscles, eh bien, ce seraient des moteurs qui vont, par exemple, faire tourner une roue ou faire se déployer une antenne. On peut aller plus loin. On peut imaginer qu'il y a un cerveau dans un robot qui va être le système qui va justement prendre les décisions automatiquement. Il y a aussi, pourquoi pas, des yeux et des oreilles. Donc, on peut imaginer des caméras ou des microphones qui vont enregistrer ou capter ce qui se passe autour du robot pour qu'il puisse prendre ses décisions. Donc l'analogie, finalement, elle n'est pas mauvaise. Donc ce ne sont pas les os et les muscles tels que nous les avons, nous. Mais oui, on peut dire que les robots sont un petit peu construits sur le modèle, sur notre modèle.
C'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser pendant que vous parliez, François Sillion. Mais finalement, pour, je sais pas, visser, dévisser, prélever, on n'a pas trouvé meilleure façon que la nôtre.
Je le dirais pas comme ça parce que en fait on sait si vous regardez un robot aspirateur finalement il est pas vraiment similaire dans sa forme et dans la façon dont il travaille. Certes. À un humain. Oui. Et puis du coup il va pouvoir se glisser sous les meubles, il va avoir avantages par rapport aux humains.
C'est
plutôt le fait que on va parfois vouloir faire travailler des robots dans le même environnement que les humains qui oblige à leur donner une forme un petit peu similaire. Par exemple, vous parliez de visser. Si sur un système de montage d'une automobile, par exemple, on a à la fois des humains et des robots qui vont devoir visser, eh bien, il va falloir que le robot, d'une certaine façon, s'adapte à l'humain, c'est-à-dire qu'il sache utiliser ou passer par les mêmes endroits que l'humain. Et c'est plutôt ça qui pousse à faire des robots qui ressemblent dans leur forme à des humains.
C'est pour qu'on puisse travailler ensemble.
Oui.
François Sillion, est-ce qu'une maison intelligente, ce serait une forme de robot ou pas du tout ?
Oui, on peut tout à fait dire ça. Une maison intelligente, c'est en fait une pièce ou un bâtiment qui va repérer ce qui se passe à l'intérieur, comprendre que vous êtes par exemple en train de vous coucher dans la chambre et va peut-être baisser le chauffage ou changer l'atmosphère lumineuse de la pièce. Et donc, en poussant l'analogie, on pourrait dire que c'est un robot et qu'on est dans le ventre du robot, puisque le robot, il nous entoure,
ah oui.
Il perçoit des choses et il prend des décisions de façon automatique.
C'était François Sillion dans Les Petits Bateaux avec un S comme Sophie. J'aimerais aujourd'hui vous emmener au musée d'Orsay pour voir la belle exposition du peintre américain Whistler jusqu'au 8 mai 2022, dont France Inter et vos journaux vous ont déjà parlé. Ce musée est un bonheur. D'abord, on y accède par la passerelle des amoureux. Si on vient de la rive droite, la rive du Louvre. C'est toujours un plaisir d'enjamber la Seine. À l'intérieur du musée, vous trouverez, en plus des expositions, les collections permanentes, dont les impressionnistes. Courez-y, je veux même dire volez-y, mais n'y restez pas. Quelques œuvres vous transporteront, vous marqueront peut-être pour la vie, vous pourrez vous les remémorer, ça fait un bien fou. Pour que ces œuvres infusent votre cœur et votre rétine, il ne faut pas en découvrir trop à la fois. Pratiquons la petite pêche. Point n'est besoin de racler le fond des océans des œuvres d'art. Ne nous cultivons pas au chalut. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, surtout si on vient de loin. Et puis les sous, toujours les sous. Les chocolats, si on n'en veut qu'un, on n'en paye qu'un. Les tableaux, si on n'en veut qu'un, si on ne veut en voir qu'un, on paye l'entrée du musée plein pot. Sachez quand même que le musée d'Orsay est gratuit les premiers dimanches de chaque mois. Et attention, le lundi, il est fermé. Allez à Orsay voir un Monet, un Rosa Bonheur, un Van Gogh, un Caillebotte, un Berthe Morisot, un Degas. Vous verrez de la lumière, du soleil, des fleurs, des bœufs de labour, des chevaux de course, des robes, des visages, des regards, des désarrois, des triomphes, des mystères. Tout est là, mais vraiment peu à la fois. Malgré les apparences, se gaver ne rime pas avec profiter. Le musée d'Orsay, Paris Rive Gauche. Podcastez mes amis ces petits bateaux ou réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Marjorie Devoucoux, Stéphane Coum, Jean-Baptiste Audibert, Thomas Langlin, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. À suivre, Jérôme Garcin avec un masque et la plume consacrée au cinéma.